danger du fanatisme. Aimer Jésus à la folie, être passionné pour lui, consécration totale. Je ne sais pas si je voudrais être un extrémiste comme ça. Je voudrais viser la modération, un bon équilibre en matière de spiritualité. Eh bien, si c'est ainsi que vous êtes en train de réfléchir, danger, danger, parce que notre passage de ce matin nous montre comment répondre et comment ne pas répondre au Christ. Et la bonne réponse, c'est d'être tout feu de flamme. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons de ce que ta parole est agissante en nous qui croyons. Et alors que tu nous ordonnes de t'aimer de tout notre cœur, nous reconnaissons que nous sommes tellement loin du compte et que nous avons donc besoin d'être au bénéfice de l'action du Saint-Esprit dans notre cœur pour que nous puissions grandir en amour pour toi et ton Fils. Sers-toi donc maintenant de ta parole vivante et efficace pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Son nom est Goliath. Il mesure environ 3 mètres et il est très bien armé. Il est philistin. Quel ennemi redoutable, terrifiant. Sur le papier, il est sur le point d'asservir l'intégralité du peuple de Dieu. Quelle perspective horrible que l'esclavage qui se profile à l'horizon. Mais le jeune David remporte la victoire sur le géant. Quel sauveur merveilleux! Et ce n'est que le début de ses exploits réalisés en faveur du peuple. Notre chapitre 18 suit cet épisode. Et qu'il puisse y avoir à l'égard de David une réaction d'amour est normal. Premier point sur le plan, si vous souhaitez suivre, un amour extravagant. Pratiquement tout le monde aime ce héros national. Et dans les circonstances, cela tombe sous le sens. Regardez le verset 16. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Autrement dit, puisque David était le chef de l'armée et un chef fort performant, tout le monde au sein du peuple israélite l'aimait. Plus loin, nous lisons à 2 reprises que Michal, fille de Saül, aimait David également. Mais arrêtons-nous sur l'amour extravagant dont Jonathan fait preuve à l'endroit de David dans les versets 1 à 4. Verset 1er, David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Il y a des personnes qui estiment que cela veut dire que David et Jonathan avaient une relation érotique, homosexuelle. Voilà un bel exemple de là où des interprètes imposent à un texte biblique des présupposés culturels qui lui sont étrangers. Ce texte n'a aucun rapport avec des relations sexuelles interdites par la Bible. Jonathan est en train de réagir au salut spectaculaire remporté en faveur de sa nation. Jonathan est le fils du roi Saül et il est attiré par ce personnage remarquable, David. Pas au plan sexuel, mais quand même au plan affectif. Il s'agit d'une relation de proximité, d'amitié, de communion d'esprit. Cet amour est encore souligné, verset 4. Jonathan aimait, verset 3, Jonathan aimait David comme son âme. Et c'est un amour qui se manifeste au plan pratique, verset 3 encore. Jonathan fit alliance avec David. Les chapitres qui suivent évoquent à nouveau cette alliance. Et avant le chapitre 23, nous comprenons ce que cette alliance entraîne. Nous comprenons que Jonathan cède le trône à David. Et le gage de cela se trouve déjà dans notre texte, semble-t-il. Verset 4. Jonathan transfère à David ses vêtements. Symboliquement, son rôle et son rang deviennent ceux de David. Et Jonathan lui donne même son épée, signe de la soumission à l'égard de David. Jonathan aime David à la folie. Il va jusqu'au bout. Difficile d'imaginer comment il pourrait exprimer son amour de façon plus radicale. Alors j'essaie de penser à une illustration qui ne va marcher que à certains égards, mais voici ma tentative. Imaginez que la constitution belge permette que des personnes en dehors de la lignée royale deviennent rois. Imaginez que le roi Albert II, qui est encore vivant, soit encore roi aujourd'hui. Il est sur le point de céder la place à son fils Philippe. Sa nation, la Belgique, gagne la Coupe du Monde en Russie. Et la clé de voûte de l'équipe, c'est un des footballeurs les plus populaires au monde, un certain Kevin De Bruyne. Et Philippe a l'occasion de faire la connaissance de Kevin De Bruyne et a l'occasion de l'inviter au Palais Royal, a l'occasion de se lier d'amitié avec lui. Et parce que la côte de la Belgique a été tellement améliorée sur la scène internationale grâce aux exploits de ce héros, Kevin De Bruyne, le prince Philippe s'engage par serment à renoncer au trône en faveur de De Bruyne. Cette illustration peut permettre de comprendre un peu le degré de sacrifice consenti par Jonathan au moment de faire alliance avec David. Mais c'est un sacrifice motivé par l'amour. On passe maintenant d'une illustration un peu ridicule, je vous l'accorde, à la réalité sublime. Nous, croyant en Jésus-Christ, nous avons notre héros. Face à l'esclavage, face aux ennemis, au péché, à l'enfer, au diable, à la mort, quel sauveur merveilleux que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a assumé la punition que nos fautes entraînent et sa vie parfaite nous est donnée en quelque sorte, compte en notre faveur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Et nous, on exprime l'amour à l'égard de Jésus en retour par notre soumission. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit Jésus. Y a-t-il une partie de votre vie où vous savez que vous n'êtes pas soumis au Christ? Vous êtes systématiquement en porte-à-faux avec la parole de Dieu du fait d'une relation particulière, d'une pratique particulière ou d'une absence de pratique particulière. Si oui, difficile de dire que vous aimez le Christ à la folie. Mais il nous revient non seulement de ne pas être en porte-à-faux par rapport aux commandements de notre Seigneur, mais encore d'aller jusqu'au bout dans notre consécration, notre zèle, notre service actif, en mettant nos dons à la disposition de son règne sur cette terre. Écoutez ce verset de Romains 12. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Autrement dit, soyez des croyants tout feu, tout flamme. Est-ce que nous aimons le Christ la façon la plus radicale qui soit? Comment nous sommes-nous sacrifiés pour lui cette semaine? Pour le croyant, vivre, c'est le Christ. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il y a quelques semaines, Le grand prédicateur et évangéliste Billy Graham est décédé à l'âge de 99 ans. Il a figuré 61 fois dans le top 10 des hommes admirés aux États-Unis. Il a été utilisé de façon extraordinaire par Dieu pour amener je ne sais combien de personnes au Christ. Et lorsque lui-même est venu au Christ, voici un élément clé de son témoignage. Je sentais que je voulais réagir à l'amour du Christ pour moi en l'aimant en retour. C'est normal lorsqu'on devient croyant. Je pense à une dame kabyle que nous avons connue à Paris. Elle s'est convertie lorsque nous habitions là-bas. Et ce qui était frappant chez elle, c'est comment elle parlait naturellement dès le départ de son amour pour Jésus. J'ai été mis au défi par ce passage cette semaine. Je suis conscient de ce qu'on dirait plus aisément de moi. Il a un amour profond de la parole de Dieu qu'il a un amour profond de son Seigneur. Or, je ne veux pas faire le clivage entre les deux. Et normalement, les deux vont de pair. Mais je sais pour ma part que je dois aspirer à cultiver davantage mes affections pour mon Seigneur et mon Sauveur. Je souligne, ça n'implique pas faire le court-circuit des Écritures. Comment concrètement progresser dans notre amour pour le Christ? Méditant sur la croix, en nous immergeant dans la parole de Dieu. C'est l'un des privilèges qu'apporte notre appartenance à cette Église, que les responsables de cette Église ont bien compris cela et veillent à ce que l'enseignement de la parole de Dieu, le message de la croix, l'Évangile, reste au centre du programme de notre communauté. C'est ainsi que nous pourrons tendre vers cet amour extravagant pour le Christ. C'est ainsi que nous pourrons ressembler davantage à Marie de Béthanie, qui a répandu du parfum coûteux sur la tête de Jésus. C'est ainsi que nous pourrons emboîter le pas à cette autre femme qui a répandu du parfum coûteux sur les pieds de Jésus. Et vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à son propos. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Tes péchés ont été pardonnés? Eh bien, montre-le par un amour extravagant pour Jésus. Mais Jésus a continué ainsi. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Ce qui nous amène à notre deuxième point, une hostilité absurde. Une hostilité absurde. Ce héros David remporte de nombreuses batailles et du coup sa popularité grandit. Verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient répondaient les uns aux autres et disaient « Saül a frappé ses mille et David ses 10 000 ». Saül se sent menacé, jaloux, il est irrité. Verset 8, Saül fut très irrité, ça lui déplut, il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1 000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Saül craint que David n'usurpe la royauté. Or, Samuel a déjà informé Saül de ce que la royauté doit lui être ôtée. Lisez avec moi 15-28. 15-28. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Certes, Saül ne connaît pas encore l'identité de cet autre qu'il remplacera. Il n'en reste pas moins que s'accrocher au pouvoir n'est plus la démarche à engager. Mais s'accrocher au pouvoir, c'est ce qu'il veut faire à tout prix. Et quelques heures plus tard, nous voici en présence d'une séance de musicothérapie. Nous savons déjà à partir du chapitre 16 que Saül engage David comme musicien pour calmer son esprit. David joue de la harpe pour soulager David, pour pallier à ses sautes d'humeur. David est doué pour la musique, mais le sentiment d'hostilité à son encontre ne quitte pas Saül. Et Saül saute sur l'occasion pour jeter sa lance en direction de David, pour tuer David. David l'esquive deux fois. Et ce que Saül éprouve maintenant à l'égard de David, c'est de la crainte. Pas dans le sens du respect, mais dans le sens d'avoir peur de lui. Verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne. Saül sait qu'il n'est pas du bon côté. Verset 15 encore, Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Et si vous n'êtes pas du bon côté, si tu es en train de résister à l'autorité de Christ dans ta vie, ne sois pas surpris si tu éprouves un sentiment de peur. Cela fait peur. Contrer la volonté de Dieu, ah oui, ça fait peur. Ne pas avoir Dieu de son côté. Au XVIe siècle, voici ce que Marie, reine des Écossais, aurait dit. « Je crains les prières de John Knox plus que les armées de l'Europe toutes réunies. » Elle savait que Dieu était plus puissant que toutes ces armées-là. Ne pas avoir Dieu de son côté, oui, ça fait peur. Si vous me dites, moi je ne suis pas croyant, mais je ne ressens aucune crainte, je vous avertis que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Saül craint David. Et ce n'en est pas fini de ses tentatives d'éliminer David. Loin de là, Saül propose maintenant de donner sa fille aînée à David pour épouse. Tout ce que David doit faire en échange, c'est faire preuve d'un peu de courage sur le champ de bataille. Démarche sympa chez Saül? Pas exactement. Deuxième partie du verset 17. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Autrement dit, il y a de fortes chances qu'il soit tué sur le champ de bataille. Mais ça ne semble pas marcher et Saül revient sur sa promesse et donne sa fille aînée à un autre. Saül revient cependant à la charge. Il mise maintenant sur sa fille cadette, Michal. Michal aime David et Saül propose de donner Michal à David pour épouse, moyennant plus de temps sur le chemin de bataille. David va devoir tuer 100 Philistins. C'est placer la barre très haut, et Saül le sait pertinemment. Fin du verset 25. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Mais ce complot se révèle un échec également. David arrive à tuer 200 Philistins et Michal devient son épouse. Et la crainte que Saül éprouve va en augmentant. Verset 29. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Cette hostilité dont Saül fait preuve est insensée. D'abord parce qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans cette peur alors qu'il pourrait être en train de vivre une relation d'amour. Ensuite, parce que David est celui qui permet que le royaume soit si solide. Il a sauvé de l'esclavage Et il continue à délivrer les Israélites face à leurs ennemis. En un sens, Saül est David sans cause. On pense aux ennemis de Jésus qui l'ont haï sans cause. Mais l'hostilité de Saül est absurde pour une autre raison. Il est en train de regimber contre les aiguillons. Il n'a aucun pouvoir. David en sort indemne à chaque fois. Saül peut jeter sa lance en direction de David à deux reprises. Il peut l'exposer longuement sur le champ de bataille à deux reprises. Mais ses tentatives d'éliminer David ne riment à rien. En fait, cela a l'effet inverse par rapport à ce qui est escompté. Ses actions ne font qu'accroître le succès et la popularité de David. Mais donc, plus Saül devient jaloux et fourbe, plus David connaît le succès. Et je vous invite à vous laisser frapper par ce troisième grand accent dans le passage, notre troisième point. Une réussite garantie, une réussite garantie. David réussit, réussit et réussit encore. Verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Verset 15, il réussissait toujours. Verset 30, les princes des Philistins partaient en campagne. Chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Quelle est l'explication fondamentale du succès de David? Eh bien, verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Verset 28. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Dieu était avec David. Il ne faut pas perdre de vue qu'à la base, David ne jouissait pas d'un statut particulièrement important. Notre passage attire l'attention sur ses origines fort humbles. Verset 18, David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Verset 23. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Mais maintenant, à la suite de tous ces exploits, verset 30, fin du verset 30, son nom devint très célèbre. Pourquoi? Parce que Dieu le veut ainsi. Je suis content que Steve ait projeté des parties du chapitre 2 vers le début de notre rencontre. Anne s'exprime exactement dans ce sens. L'Éternel abaisse et il élève. Ou d'autres paroles que nous avons entendues là de 1 Samuel 2 qui se trouvent dans la bouche de Anne. Écoutez simplement. L'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Et qui est ce oint? Qui est ce Christ de Dieu, ce Messie? Au stade de notre chapitre, ce n'est plus Saül, mais David. Et vous pourriez vérifier cela plus tard en lisant le chapitre 16. C'est le trône de David qui doit être établi. Et si Dieu orchestre cela, on ne peut pas faire obstacle à ce projet divin. Et a fortiori, le projet divin pour le règne de loin, avec un O majuscule, du Christ de Dieu, du Messie, du fils de David qui est aussi fils de Dieu, du roi qui est aussi le roi des rois. Toute hostilité vis-à-vis de ce roi est absurde. À coup sûr, ses ennemis l'ont cloué sur la croix, mais c'était selon le dessein de Dieu. Car c'est là, sur la croix, qu'il a été intronisé, sa mission accomplie, et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Et il règne aujourd'hui. Et le projet de Dieu, c'est que son règne soit reconnu et qu'un jour, toute chose lui soit soumise. Le royaume du monde sera remis au Christ et il règnera au siècle des siècles. Son triomphe est garanti. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute marque d'opposition vis-à-vis du Christ est donc absurde. Ça ne correspond qu'à rejamber contre les aiguillons et faire avancer le projet de Dieu qui maîtrise toutes choses. L'apôtre Paul a dû apprendre cela sur le chemin de Damas. Vous vous souvenez de la voix de Jésus depuis le ciel. « Pourquoi me persécutes-tu ? Il t'est dur de rejamber contre les aiguillons. » Le péché est toujours comme cela, aller à contre-courant de Dieu, insensé. Je ne dis pas que chaque péché soit aussi grave qu'un autre, mais qu'il n'y a pas de neutralité avec le Christ. Chaque péché est absurde. Chaque tentative de se rebeller contre Dieu suscite la moquerie du ciel. Chaque décision de ne pas aimer Dieu de tout son cœur équivaut à une tentative de regimber contre les aiguillons. C'est risible, parce que Dieu a établi son oint, son fils, son roi, de par sa mort, de par sa résurrection, de par son ascension. Et il reviendra en tant que juge pour condamner éternellement les personnes qui n'ont pas accepté son offre de pardon de leur faute. Et donc ce n'est pas compliqué. On se range du côté du roi pour vivre une relation d'amour extravagant. Au lieu de regimber contre les aiguillons en vivant dans la peur et la stupidité. Faisons notre choix. Ou bien un cœur entier au Christ, ou bien une hostilité insensée. Ou bien un amour extravagant, ou bien une tentative risible de faire obstacle au dessein de Dieu. Ou bien un Jonathan, ou bien un Saül. Il y a plusieurs types de personnes dans cette salle. Certains sont des croyants tout feu du flamme, amoureux de leur Seigneur et soucieux de promouvoir cette affection pour le Christ, ce zèle pour lui, cette soumission à son règne. Ce sont des Jonathan. D'autres savent qu'ils ne sont pas encore dans le bon camp et doivent impérativement basculer de l'autre côté pour cesser de rejamber contre les aiguillons et vivre dans la peur, pour commencer à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et que son triomphe est garanti. Ce sont des Saül qui doivent cesser de l'être. Il y a d'autres encore qui pensent peut-être être du bon côté, mais qui ne voudrait pas être trop fanatique. Il voudrait s'identifier avec le Christ pourvu que cela ne coûte pas trop cher. Il n'aspire pas à une consécration entière. Il ne, Il voudrait être quelque part dans un monde idéal entre Jonathan et Saül. Des Jonahul, en quelque sorte. Le problème, c'est que Jonahul n'existe pas. Son vrai nom, c'est Saül. Nul ne peut servir deux maîtres. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et être avec Jésus veut dire se soumettre à lui, se charger de sa croix et le suivre, l'aimer. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, écrit l'apôtre Paul. Non pas l'aimer du bout des lèvres. L'injonction, c'est de l'aimer de tout notre cœur. À une église, Jésus doit dire ceci. Aie du zèle et repens-toi, sinon il vomira cette église de sa bouche. Et vous vous souvenez de ce que nous avons vu dans l'épître de Jacques? Il est impossible de vivre pour Dieu et pour le monde. C'est comme essayer de faire le grand écart. Et un pied dans un bateau à côté du port, on va finir par tomber dans l'eau. Peut-être que vous voudriez me répondre, je ne suis quand même pas comme Saül. Lui était vraiment méchant. Ne sous-estimons pas la méchanceté de notre cœur dans son état naturel. Dans le cœur humain se trouve, entre autres, le meurtre, comme pour Saül. Vous me dites, mais je viens quand même régulièrement à l'église. Oui. Et vous pouvez avoir les apparences de quelqu'un qui aime le Christ. Au départ, il en était ainsi de Saül. Lisez avec moi 16:21. 16:21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Avant sa conversion, Billy Graham avait les apparences de quelqu'un qui aimait le Christ. Mais il ne l'aimait pas. Le fils d'un ami pasteur dans un autre pays est devenu croyant à l'âge de 15 ans. Il témoigne ainsi de comment il était avant sa conversion. J'ai sa permission de le citer. J'ai trouvé facile de dire les mots « Jésus est mort pour mes péchés ». Et j'aurais certainement dit que j'étais un chrétien. Et vous savez, j'ai probablement agi comme un chrétien aussi. Je fréquentais l'église chaque semaine, je connaissais toutes les bonnes réponses aux questions, et on aurait dit de moi « c'est un bon gars ». Mais je faisais semblant. Je rejetais toujours Dieu. Je n'avais pas décidé de lui faire confiance. J'avais confiance en moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment de décider d'être comme Jonathan et non pas comme Saül. À force de fixer les yeux sur notre grand sauveur, on constate que c'est la seule option qui s'impose. À force de réfléchir à la stupidité et à la peur de s'opposer au Christ, on constate que c'est la seule option qui s'impose. À force de considérer le triomphe garanti du roi des rois, on constate que c'est la seule option qui s'impose. Bien sûr, même pour le croyant le plus exemplaire qui soit, le péché continue à nous coller à la peau et il nous faut constamment revenir à la croix dans la repentance, constamment nous délecter du pardon qui est le nôtre grâce à la grande victoire remportée par notre héros Jésus-Christ. Nous avons confessé collectivement nos péchés au début de cette rencontre. Mais la question est de savoir quelle est l'orientation fondamentale de notre vie. Retour donc au sondage. Merci de cocher la case pour indiquer votre aspiration. En principe, êtes-vous, es-tu un croyant tout feu tout flamme ou pas encore croyant?
Merci James. Nous allons terminer avec un chant, chers amis.